Ah bah bonjour, ici Shoam, toujours de retour à la Games Up. Je suis dans le train et donc je voulais avoir des impressions de personnes qui sont dans le train aussi, qui viennent de la Gamescom, et avoir des impressions sur le salon, ce qu'ils en ont pensé. Alors j'ai pris une personne complètement au hasard, je sais pas du tout ce qu'il fait, il va le dire lui-même certainement, sauf si c'est top secret. Donc bonjour.
Bonjour, donc je me présente, Xavier Liard, je suis le directeur général de Dotemu, et Dotemu, en fait, on est une société qui est spécialisée dans la revalorisation d'anciens jeux vidéo. Voilà, donc on adapte des anciens jeux sur Internet, on a fait notamment une version flash de Street Fighter 2 sur iPhone avec R-Type qui est édité par Electronic Arts et sur PC. Voilà. Notre portail de distribution.
Qu'est-ce que tu en pensais donc de la Gamescom? Déjà, je pense que tu venais pour des raisons professionnelles.
Oui, en fait, je suis venu donc deux journées. Donc la première journée, en fait, elle était ouverte qu'aux professionnels. Et après, donc à partir de la deuxième journée jusqu'à dimanche, c'est réservé donc au grand public, mais aussi aux professionnels jusqu'à samedi ou dimanche, je crois, je sais plus. Moi, j'ai juste eu le temps de faire un petit tour du côté grand public. Et je dirais que par rapport à l'année dernière, je trouve ça à peu près similaire au niveau du nombre de personnes qui étaient présentes et au niveau des studios et des éditeurs présents.
D'accord. Est-ce que tu as eu le temps de voir des jeux vidéo là-bas, des nouveautés, en dehors du fait que tu devais y aller pour des raisons professionnelles ?
Honnêtement, j'ai pas eu le temps de voir beaucoup de choses. Je suivais Ruse, en fait, que j'avais vu pour la première fois il y a maintenant plus d'un an à l'E3. Et qui avait un peu attiré mon attention avec l'histoire de table, etc. Et je me demandais comment ils allaient faire pour changer un peu le marketing, parce que ça sous-entendait qu'ils vendaient quasiment le jeu avec la table d'une certaine façon. Et donc là, j'ai vu qu'il y avait un stand avec plein de petites tables, avec des portables tout simplement, où les gens pouvaient tester Ruse. Et voilà, donc j'ai vu ce jeu-là. Je suis aussi de près à l'activité de Frogster. Parce que je personnellement j'aime bien Runs of Magic. J'ai vu qu'ils étaient en train de sortir différents jeux. J'ai pas tous les noms en tête, Mythos ou quelque chose comme ça, je crois. Mais effectivement, le problème c'est que en une demi-heure on n'a pas le temps de voir grand chose.
En fait, c'est un peu le problème qu'on a, nous journalistes, c'est qu'on voit vraiment une petite présentation et après on reste un peu sur notre faim parce qu'on voudrait voir plus sur le jeu et on n'a pas le temps. C'est effectivement le problème que l'on a. Alors justement, toi en tant que professionnel, est-ce que la Gamescom est vraiment le parfait endroit où tu peux discuter business avec des gens du milieu?
Alors disons que c'est pas le parfait endroit, c'est un endroit. Et en fait, ce qui est important, c'est de pouvoir être à peu près présent à tous les gros événements. Il n'y en a pas 36, il y a l'E3, il y a la Gamescom, et puis il y a le Tokyo Game Show, globalement. Donc il y a vraiment ces trois événements-là qu'il faut essayer de couvrir. Et puis après, il y en a plein de petits événements à gauche, à droite, qui sont aussi intéressants. Pour les développeurs, il y a tout ce qui est la Game Conférence... GDC, Game Developer Conference, qui est intéressant. Et disons que donc, la Gamescom est un salon intéressant pour les professionnels, sans être pour autant peut-être le plus pertinent.
Bah justement, on va un peu parler en France, on va revenir en France. Nous, on sait que nous, on va avoir deux salons français, puisque le troisième a été annulé. deux salons français, donc le Festival du jeu vidéo et la Paris Games Week du syndicat du CEL, le syndicat national de jeux vidéo. J'imagine que tu seras présent.
Alors oui, bon, c'est un vaste débat. Effectivement, il y a eu quelques frictions dans ce domaine-là. Avant, il faut dire qu'il y avait aussi le Micromania Game Show qui était censé s'organiser, et donc ils ont vu que le CEL, qui était au départ, si je ne me trompe pas, partenaire du Festival du jeu vidéo, n'était pas sur la même longueur d'onde, ils ont décidé de faire les choses séparément. Ils ont quand même été, été sympas en un sens. Dans le sens où ils ont quand même décalé la date, ils auraient pu les faire en frontal. Après nous on aura un petit stand au festival du jeu vidéo. Voilà.
Bah, on aura l'occasion certainement de se voir. Bah, on va un peu parler de ton domaine, donc qui est un peu le rétro gaming, si j'ai bien compris. On a eu l'occasion de visiter le musée du jeu vidéo et malheureusement on connaît son sort funeste, puisque voilà, il a fermé et fermera définitivement. Donc ils sont actuellement sans domicile fixe, on peut dire ça. Toi, qu'est-ce que t'en penses en fait de toutes ces histoires, en plus de l'histoire avec l'association Emo 5?
Là encore, c'est une histoire qui est un petit peu compliquée. Hein. Il y a beaucoup de facteurs. J'ai pas forcément envie de prendre parti. Bon, c'est vrai qu'il y avait donc Alerte Orange qui s'était occupé de mettre en place ce musée avec l'Arche de la Défense. C'est ça, oui. Donc il y a une histoire d'ascenseur, etc. Mais bon, c'était plus
l'écologie qui veut récupérer.
Voilà. Enfin, c'est après. En fait, c'était plus un prétexte hein, pour temporiser puis récupérer les lieux après. Donc là encore, difficile de se prononcer vraiment. Après, bon, il y a eu Museo Games, qui existe toujours, mais qui est une exposition temporaire. Moi, personnellement, je connais très bien Philippe Dubois de MO5. Et moi, je supporte vraiment ses actions. On était partenaires sur quelques événements. Là, on va renforcer un petit peu nos liens, parce que bon, on est sur les mêmes... On a à peu près la même vision, on a des démarches différentes, une approche différente. C'est MO5, c'est vraiment une association, hein, ils sont là, ils ont vraiment leur but ultime, c'est de réussir à avoir leur propre musée. J'espère qu'ils arriveront à avoir leur propre musée. Ça fait plus de 10 ans déjà que l'association existe, si je ne me trompe pas, ça, il me semble que c'est dans les 10 ans. Donc ils mériteraient quand même de... Enfin, c'est un petit peu... je dirais que c'est presque scandaleux qu'il n'ait pas encore de salon du jeu vidéo. Voilà.
D'accord. Bah justement, dans le rétro gaming, on va en plus un peu parler de ta société. Pourquoi continuer à parler du rétro gaming alors que quand même ce sont des vieux jeux? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de garder en mémoire ces vieux jeux?
Alors, quand on parle d'anciens jeux, il faut dire que c'est pas parce qu'un jeu est ancien que pour nous il est forcément bon. Hein, ça c'est clair. Il y a des bons anciens jeux vidéo et il y a des mauvais anciens jeux vidéo. Donc, je dirais que déjà il y a certains éditeurs qui ont essayé de lancer à un moment des mauvais anciens jeux, ça n'a pas fonctionné, ils ont laissé tomber.
Donc,
là en tête là tout de suite non, mais enfin voilà donc. Alors déjà les mauvais anciens jeux vidéo, je dirais que bon, on peut les garder d'un point de vue musée. Enfin, c'est toujours intéressant de garder quand même toutes ces œuvres, hein, parce que c'est quand même quelque chose qui demandait beaucoup de temps d'investissement et surtout de créativité, hein, qui était encore presque, je dirais quand même, c'était plus diversifié à l'époque. Et après, il y a les bons anciens jeux vidéo. Alors là, pour ces bons anciens jeux vidéo, nous, on trouve qu'il y a quand même peu d'alternatives. Je dirais plutôt légales. Objectivement, si on veut retrouver, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple de jeux qui sont pas disponibles, mais par exemple des jeux d'arcade Konami. Alors bon, il y a des compilations Konami, mais par exemple les jeux Irem. Namco, il y a des Namco Museum, mais il y a plein de... Enfin, si on prend des anciens jeux, des jeux PC, etc., il y a énormément de très bons jeux vidéo qui sont plus disponibles pour une raison X ou Y. Bon, il y a des problèmes type de droit aussi, c'est assez compliqué. Et voilà, on trouve que d'un point de vue global, c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas quelque chose d'existant, et notamment de pouvoir les faire fonctionner de manière agréable et directe sur les supports de tous les jours, c'est-à-dire l'iPhone, le web avec les jeux Flash, PC, et bon, il y a aussi d'autres plateformes, et donc c'est là-dessus qu'on travaille depuis maintenant plus de 3 ans.
Bah justement, où est-ce qu'on peut aller sur un site internet où on pourrait aller pour un peu découvrir ce que tu fais et puis redécouvrir aussi ces vieux jeux? Parce que je sais que, enfin, j'en parle beaucoup, mais sur Game Radio, en fait, il y a beaucoup de personnes qui adorent le rétro gaming. En fait, on passe que des musiques de vieux jeux, en fait. Voilà, est-ce qu'il y a un site internet où est-ce qu'on peut voir ça et revoir tout ça?
Voilà, j'ai l'impression qu'il y a une pub qui est sur un plateau là. D'accord. Oui, donc on a un site. Donc on a un site, c'est donc dotemu.com. Aujourd'hui, on a des jeux comme Commandos, Chevalier de Baphomet, les classiques comme ça qu'on peut télécharger. Il y a aussi Street Fighter 2 en flash. Et donc voilà. Et juste pour revenir un petit peu sur la question sur qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans les anciens jeux, etc., il y a une chose quand même importante que j'ai oublié de dire, c'est le gameplay. C'est le fait de rentrer directement dans le jeu. C'est-à-dire que dans des bons jeux rétro, on est toujours tout de suite dans l'action, on n'a pas à passer 35 tutoriels qui nous expliquent comment sauter, comment se baisser, comment... Voilà quoi, on est tout de suite dedans. Et ça, on trouve que, enfin, il y a vraiment un côté fun. Hein. Nous, on a une board d'arcade... au bureau, c'est toujours un, toujours un plaisir. C'est un bon jeu de combat, qu'il soit en 2D ou en 3D, avec plein d'effets spéciaux. Le principal, c'est d'avoir des bonnes combinaisons, une vraie réflexion à ce niveau-là, un vrai fun, plus que plein de graphismes et plein de paillettes.
D'accord. Merci beaucoup pour ton témoignage. Et puis, on aura certainement l'occasion de se retrouver dans d'autres salons. À bientôt.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir. Game. Radio. C'est un peu l'après Gamescom que je fais, puisque je suis dans le train pour retour à Paris, et pourtant je rencontre encore des gens qui étaient à la Gamescom, qui étaient présents, et des gens français, parce que à la Gamescom c'est pas facile quand même de rencontrer des gens qui parlent français, et pour la radio c'est un peu mieux quand même.
C'est plus simple.
Donc, alors je ne connais pas du tout la personne qui est à côté de moi, elle va se présenter elle-même, c'est un peu le direct, hein, comme ça, rapidement. Bah, écoute, ton nom, ton prénom, ce que tu fais.
Je suis Jeanne Rousseau, je suis fondatrice et gérante de la société Spiders. Donc Spiders, c'est un studio de développement parisien, on travaille sur PS3, sur 360, sur PC. Là actuellement on est en train de finir le développement d'un jeu qui va sortir sur le Live Arcade, sur le PlayStation Network et donc sur Steam également.
Ouais. D'accord, donc on a quand même quelqu'un d'assez exceptionnel là. Donc c'est un grand plaisir, on aime beaucoup parler des gens qu'on ne connaît pas. Et c'est un grand plaisir. Alors avant de parler de ta société, donc on va rentrer un petit peu en détail. Parle-nous un petit peu de la Gamescom, là tu étais. Qu'est-ce que tu en as pensé là, du salon comme ça à chaud?
Moi j'y vais presque chaque année depuis maintenant un certain temps. J'étais à Leipzig avant d'aller à Cologne, forcément, comme beaucoup de gens. On a pris un stand comme depuis 2 ans, enfin depuis qu'on existe. Ça se passe bien, ça nous permet, en général en fait on est du côté business, ça nous permet de rencontrer les publishers, mais aussi de la presse parfois, mais aussi pas mal de gens en fait, et de renouer les contacts, de dire qu'on est toujours là, de montrer un peu nos produits, voilà quoi. Et non, c'est plutôt bien, c'est un bon salon, moi j'aime bien.
D'accord. Et justement, on va plus parler un peu du côté business. Est-ce que vraiment le salon comme la Gamescom est vraiment utile dans le métier, dans le milieu? Est-ce que ça peut vous aider? Ça vous donne des petits boosts financiers? Est-ce que sans la Gamescom, il y aurait des choses que vous ne pourriez pas faire?
Sans doute, oui, même s'il y aurait probablement un autre salon qui prendrait la place. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que le marché allemand est en Europe un marché très très important. Nous, en plus, on fait du RPG, donc c'est quand même quelque chose qui a tendance à parler pas mal au public allemand. Et qu'en plus, c'est vrai qu'en Europe, quand on veut rencontrer même les éditeurs, par exemple américains, mis à part aller à San Francisco au moment de la GDC, c'est un petit peu l'autre occasion dans l'année de rencontrer à nouveau ces éditeurs, de leur montrer où on en est 6 mois plus tard et de faire un petit peu le point sur ce qu'on peut leur présenter, ce qu'on peut leur proposer comme produit aussi, etc. Donc non, c'est plutôt très bien. Que dire de plus? On signe pas spécialement de contrat tout de suite, mais disons qu'en général, on pose des bases. Et moi, l'année dernière, je sais que ça a débouché sur un contrat qui a été signé quelques mois après, mais c'est suite à ce qu'on avait présenté à la Gamescom que ça a été signé. Et j'espère bien que cette année, ça sera pareil.
D'accord, oui, donc finalement vous avez quand même réussi à avoir des choses intéressantes là sur ce salon là à la Gamescom.
Disons que oui, simplement déjà le fait de rappeler aux gens qu'on est toujours là, de leur montrer où on en est, des progrès qu'on a pu faire, des projets qu'on a en cours, c'est vraiment un bon moyen pour alors aussi nouer de nouveaux contacts. Hein. J'ai eu l'occasion de rencontrer quelques éditeurs que je connaissais pas encore, où j'avais pas eu l'occasion de voir. Et du coup, je dirais oui, bilan globalement positif. Voilà.
D'accord. Un peu pour parler en dehors du fait que ce soit un salon business, c'est aussi un salon où il y a la première fois le public vient voir les jeux qu'ils ont pu voir dans l'E3 et les essayer. Est-ce que tu as pu voir des jeux là-bas? Pas du tout, du tout. Donc toi, tu vas pas trop voir les jeux, quoi. C'est vraiment pour le business que tu vas.
En fait, cette année, c'était un peu particulier parce que je restais que 2 jours. Alors, d'habitude, j'y reste un petit peu plus longtemps. Et du coup, j'ai vraiment passé 2 jours à faire des meetings quasiment exclusivement. Donc hélas, j'ai vraiment pas eu le temps d'aller dans la partie entertainment et de profiter un peu du côté sympa, de ramasser des goodies et de jouer à des jeux, quoi. Et vraiment, là, j'en ai rien vu, quoi. Mais bon, j'avais pas trop le choix, il fallait que je rentre ce soir, donc ça sera pour une autre fois.
D'accord. On va un peu parler des salons qui vont être à Paris. J'imagine que vous y serez certainement, pas forcément en tant qu'exposant, mais en tant que visiteur. Là, il y a donc le Festival du jeu vidéo qui est là dans quelques semaines, et bientôt le Paris Games Week. Est-ce que vous pensez que, vous dans la société, est-ce que vous pensez sincèrement qu'il puisse y avoir un des salons qui puisse être aussi important que la Gamescom ?
Honnêtement, à l'heure actuelle, j'en doute. Pas que ce soit impossible dans l'absolu, mais tels qu'ils sont organisés à l'heure actuelle, et ne serait-ce qu'au niveau date, ça ne correspond pas spécialement aux moments qui sont ceux où on a des fenêtres vraiment en tant que développeur ou même publisher pour présenter les jeux au public. Résultat, pour l'instant, je suis assez dubitatif. Ça ne veut pas dire que je ne serai pas là, et ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas ces festivals-là, mais c'est que pour le moment, pour X ou Y raison, les deux grosses fenêtres dans l'année où on peut présenter les jeux, y a effectivement l'E3 aux US, et puis effectivement la Gamescom, où on retrouve vraiment tous les grands acteurs du métier. Pour l'instant, hélas, Paris n'a pas tout le monde, et ça reste encore un peu timide, on va dire.
Okay, donc c'est vraiment plus pour le public français, pour qu'il puisse voir les jeux de Noël, hein. C'est un peu ça.
Oui, il y a un petit peu de ça, on se prépare à faire ses courses, quoi. Bon, heureusement, il n'y a pas que ça, et puis je pense que ça peut grossir par la suite, mais ça mettra du temps. Et les quelques salons, en fait, on a du mal à maintenir plusieurs salons qui soient de la même taille en Europe, en fait. Fut un temps, il y avait l'ICTS à Londres, et elle a fini par disparaître au profit, justement, du salon de Leipzig. Et on a du mal à maintenir comme ça des gros gros salons où il y ait à la fois le public et aussi d'une partie plus business qui permet aux éditeurs, aux publishers et ainsi de suite de se rencontrer tous ensemble et de préparer leur deal futur et les jeux qui finiront entre les mains des joueurs par la suite.
On va venir un petit peu sur ta société. Nous, en fait, on a beaucoup de gamers qui nous écoutent. Hein, et des gens qui aiment beaucoup les petits jeux comme ça. On adore télécharger des petits jeux comme ça sur l'XLA et sur le VSN. Bah, parle-nous de ton jeu. Présente-nous un petit peu ta société. Est-ce que le jeu sur lequel vous êtes en train de travailler ?
Bon, en fait, ma société est assez récente, même si quasiment toute l'équipe a pas mal d'ancienneté dans le jeu de manière générale. Et en fait, on a créé la boîte il y a 2 ans. Et on a commencé il y a un peu moins d'un an le développement d'un jeu qui s'appelle donc Fairy Legends of Avalon, qui est publié par Focus, et donc qui va sortir sur les 3 plateformes annoncées tout à l'heure. C'est un RPG assez orienté aventure, c'est-à-dire que on va dire qu'il est très très axé sur l'exploration, sur la rencontre de personnages, sur un peu sur la collection de personnages, en fait, le fait de rencontrer d'autres tout le monde dans le jeu va ramener des succès, des trophées particuliers, etc. Mais sinon on y retrouve les mécanismes habituels du jeu de rôle, donc les équipements évolutifs, la progression de personnages, avec des petits points forts qui sont le fait que quand on prend des niveaux, au lieu de simplement rajouter des points de compétences, on fait évoluer physiquement son personnage, donc on lui rajoute c'est vraiment inspiré des contes de fées, légendes, etc. Donc on joue soit un elfe, soit une fée, au fur et à mesure on peut lui rajouter des cornes, des ailes, ce genre de choses qui vont avoir un impact sur ses compétences. Donc ce qui est assez sympa, c'est qu'au bout d'un certain nombre de niveaux, les joueurs auront probablement plus du tout les mêmes personnages, aussi bien visuellement qu'en termes de compétences. Voilà.
Donc là, on est sur du RPG un peu French Touch. Est-ce que vous vous inspirez plus sur le RPG type à l'américaine, un peu style Baldur's Gate, style BioWare, ou plus du Final Fantasy à la japonaise ?
Bah, c'est amusant que tu dises ça parce que c'est un petit peu entre les deux. En fait, en termes de quête, de narration, on est clairement dans la lignée du BioWare avec des dialogues à choix multiples, avec vraiment des quêtes qu'on peut résoudre de plein de manières différentes. Honnêtement, d'ailleurs, même l'inspiration, c'est presque plus KOTOR dans la manière de gérer les compagnons, leur affection, etc. Le fait qu'ils soient contents d'être là ou pas, ainsi de suite. Et par contre, les combats, c'est du tour par tour, donc on se rapproche beaucoup plus de Final Fantasy. En fait, on a choisi ce mix-là, à la fois parce qu'on aime beaucoup le type de narration de BioWare, donc on avait envie de rester assez proche de ça, et en même temps parce que l'univers qu'on traite nous paraissait s'appliquer mieux à du tour par tour qu'à de l'action plus immédiate, et que comme on s'adresse à un public très large, le tour par tour a l'intérêt, surtout sur console, d'être assez facilement accessible. Et même si on a différents niveaux de difficulté qui permettent à des joueurs un peu plus chevronnés de s'amuser quand même, parce que les combats deviennent beaucoup, beaucoup plus stratégiques, un joueur plus lambda, plus qui a juste envie de passer un bon moment, peut y trouver son compte aussi. Il n'a pas, je dirais, le côté très très nerveux de jeux qui sont plus action, quoi.
Ah, là, ça fait depuis 2 ans que vous travaillez sur le jeu, si j'ai bien compris.
Ce projet-là, on l'a commencé en fait en janvier de cette année. La conception, juste en termes d'idées, on avait eu l'idée un petit peu avant, mais on a signé en janvier seulement avec Focus, et c'est à ce moment-là en fait qu'on a commencé à proprement parler le développement. On avait commencé à faire évidemment des refs, des maquettes, des choses comme ça, avec l'aide notamment du CNC qui nous avait permis de financer en partie une maquette. Mais voilà, le développement à proprement parler commençait en janvier, et il va sortir probablement fin octobre, quelque chose comme ça.
C'est quand même ça paraît être vraiment un travail colossal. Combien vous êtes en fait, combien de développeurs, combien de personnes ça demande pour un tel jeu?
L'équipe de base est d'une dizaine de personnes à peu près, et là par contre au gros du projet on est monté à 24 personnes, ce qui pour nous était assez gros, mais en sachant qu'on travaille, on a l'habitude de travailler beaucoup avec des freelances, donc aussi bien en scénario que en illustration, mais aussi même en graphisme 3D. On a eu la chance de travailler avec des gens très très talentueux et c'était un vrai plaisir. Voilà.
Ok, très bien. Par rapport aux éditeurs, puisque vous êtes une boîte de développement, est-ce que c'est compliqué la relation entre éditeurs, développeurs, ou sans forcément taper sur qui que ce soit, hein, mais quelles sont vraiment les relations qu'on peut avoir entre éditeurs et développeurs? Est-ce que c'est compliqué ou finalement c'est plutôt assez souple?
Bon, en fait, je pense que ça dépend beaucoup de l'éditeur, et ça dépend aussi du produit. Nous, on a la chance finalement d'avoir un produit qui ne représente pas un budget énorme, simplement parce que sur ce genre de plateforme, évidemment, c'est pas spécialement un triple A avec 300 personnes qui travaillent sur le projet, et donc évidemment les budgets sont pas les mêmes. Plus le budget est, on va dire, restreint, plus du coup, et que la créa vient du développeur, ce qui est notre cas, c'est nous qui avons présenté le concept au départ à l'éditeur, plus du coup, l'éditeur a tendance à laisser une certaine forme de liberté. S'il a accepté de faire le produit, c'est pas pour le changer du tout au tout, évidemment, le lendemain. Après, quand on travaille dans un format, on va dire, qui correspond plus à une commande, ben évidemment, là, on est souvent beaucoup plus soumis à l'éditeur, et plus le budget va être élevé, plus du coup, on est susceptible, alors c'est pas toujours le cas, mais de bien les caprices de l'éditeur, effectivement. Mais dans l'ensemble, honnêtement, on a la chance à l'heure actuelle de travailler avec un éditeur qui nous fait confiance, qui a envie que le jeu soit bien et qui nous pousse dans ce sens-là, mais qui va pas du tout nous tyranniser sur le contenu ou sur nous demander de changer tel ou tel personnage parce qu'il lui plaît pas, etc. On a un vrai rapport de confiance qui est très très agréable.
Ok, c'était très très souple de ce côté-là, vous avez pu vraiment faire ce que vous voulez avec Focus Interactive. Juste une dernière question concernant le prix du jeu. Le prix du jeu sera à peu près de
100. Ça doit être 1200 points Microsoft sur Steam. Je dois avouer que j'ai pas encore le tarif exact, mais ça va être à peu près l'équivalent, quoi. Donc en gros, on va dire une quinzaine d'euros globalement.
Voilà. Une quinzaine d'euros, on aura un très bon RPG et en plus français. Non, c'est vrai que j'ai pas testé, donc je suis pas très objectif, mais déjà un RPG français, déjà c'est une bonne nouvelle.
Il y a pas beaucoup de effectivement, hélas, de studios en France qui se lancent sur ce domaine-là, et surtout sur le live, il y en avait pas énormément non plus, donc. On espère que le public va nous suivre et que ça sera une belle aventure entre eux et nous, puisque nous, clairement, ce qu'on veut, c'est retrouver les joueurs. Hein. Sur le live, c'est quand même la meilleure fenêtre pour être en contact avec eux.
Effectivement. En tout cas, sur Gamer Duo, moi, je serai le premier client, ce genre de choses. Peut-être pas sur Xbox Live, mais sur Steam. Et je serai ravi de pouvoir tester ça. J'ai même hâte un petit peu, hein, quand même. Là. Merci en tout cas pour ces petites impressions, une petite interview. Et puis à très bientôt, certainement. Game Radio.